Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La mondialisation prend ces jours-ci un visage effrayant, sinistre, celui du terrorisme, de la Syrie au Nigeria, de la France au Cameroun, en passant par le Danemark ou la Libye, Boko Haram, ACMI, organisation de l'État islamique, Al-Qaïda, inscrivent chaque jour leur nom en lettres de sang sur les écrans de nos télévisions ou font la une des bulletins d'information, à commencer par ceux de RFI. Les zones où ce phénomène se développe sont souvent pauvres. Y a-t-il un lien de causalité entre pauvreté et terrorisme ? Le terrorisme a-t-il des racines économiques ou pas du tout ? Quel est le coût de ce fléau pour les populations qui en sont les acteurs ou les victimes et pour les États qui cherchent à l'enrayer ? En marge des réponses militaires et sécuritaires dont il a été question cette semaine à Washington, avec un sommet réunissant 60 pays, les politiques économiques peuvent-elles contribuer à endiguer l'embrigadement d'une jeunesse fanatisée ? Voilà les questions que je poserai aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Pierre Connaissat.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez été haut fonctionnaire au ministère de la Défense, responsable de la délégation des affaires stratégiques. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence, maître de conf, comme on dit à Sciences Po Paris. Mmh. Et vous avez aussi publié aux éditions Robert Laffont un livre intitulé « La fabrication de l'ennemi ». Quelle serait votre définition du terrorisme aujourd'hui ?
Moi, je reste sur une définition qui est celle de la... qui est une définition assez conceptuelle et pas du tout politique. En stratégie, on estime qu'un acte terroriste est un acte dont l'effet médiatique est supérieur à l'effet stratégique. C'est-à-dire que le but premier du terrorisme, c'est d'abord de médiatiser. Et d'ailleurs, on n'a jamais constaté qu'une guerre ait été gagnée grâce au terrorisme.
Donc, ce qu'on fait, là, c'est, en ce moment, dans ce studio, à ces micros, c'est de répondre positivement à,
non,
aux
c'est
terroristes.
D'abord, c'est de ne pas entrer dans le débat sur qu'est-ce qui est terroriste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, je juge l'acte par rapport à sa recherche de médiatisation. Et encore une fois, je relativise l'impact de l'acte terroriste, parce que, évidemment, c'est pas les assassinats des dessinateurs de Charlie Hebdo qui vont déstabiliser la France. Bon. Et le 11 septembre n'a pas plus déstabilisé les États-Unis. Donc, encore une fois, c'est la recherche de la médiatisation, ce que je renvoie d'ailleurs vers vous, parce que c'est la responsabilité des médias et comment traiter d'un acte terroriste. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé en janvier en France.
Alors, avec nous dans ce studio également, Daniel Mirza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Tours, chercheur associé à Orléans et au CEPI, qui est un des principaux centres de recherche français. Sur la page internet que vous avez créée, vous précisez que votre domaine de recherche, c'est, je cite, « commerce et mondialisation ». Or, vous travaillez aussi sur le terrorisme du point de vue économique. Alors, quel est le lien entre commerce, mondialisation, terrorisme ?
Ah, il faudrait peut-être un peu, voire beaucoup de temps pour essayer mais de essayer de
là, je vous demande de synthétiser.
Lien. Mais en fait, il y a un lien donc qui part donc des effets, des facteurs qui sont des facteurs économiques dans les pays qui génèrent du terrorisme, donc des facteurs type, ça peut être de la pauvreté, mais on va aller bien au-delà de la pauvreté parce qu'on va voir que la littérature ne parle pas que de cela, loin de là. Et puis, il y a des facteurs que le terrorisme lui-même, en retour, va générer sur l'économie, dont il va falloir discuter plus longuement dans ce qui va venir.
Alors, au cours de cette émission, nous irons au Mali avec un reportage de David Bachet sur les origines économiques du terrorisme. Nous irons sur les rives du lac Tchad avec Majasra Nako, en Turquie avec Jérôme Bastion qui nous parlera du coût du terrorisme. Et nous entendrons aussi Mossadegh Bali, le patron de la chaîne hôtelière africaine Azalaï. Je voudrais d'abord vous faire entendre un témoignage. Il y a quelques jours, Nicolas Champeau, journaliste à RFI, s'est rendu au nord du Nigeria, là où sévit Boko Haram, dans le camp de Sayam Forage. Là, il a rencontré un jeune homme, Ibrahim Ousmane, qui avait fui son village après les attaques de Boko Haram. Et voilà, aux yeux d'Ibrahim Ousmane, pourquoi Boko Haram arrive à recruter.
Ils leur donnent de l'argent. La majorité des gens qui rentrent là-bas et qui sont avec les insurgés n'ont pas un métier fixe. Et puis les insurgés, eux, leur donnent de l'argent, presque tout, à leur disposition. C'est pourquoi les gens partent là-bas et s'associent avec les insurgés.
Parce que le gouvernement d'Abuja fait peu de choses pour le nord-est du Nigeria, c'est ça ?
Concrètement, ils ne font pas grand-chose pour le nord. Hein. Que lui, il a fini ses études, il est là, il n'a pas trouvé de travail. Il était obligé de commencer à commander, à faire le monde. C'est avec ça qu'il a pu installer son premier commerce, jusqu'à ce que cette situation arrive.
Alors, c'est un témoignage très clair, c'est la misère, la pauvreté, le chômage qui permettent à Boko Haram de recruter. Pierre connaît ça ? La misère qui crée le terrorisme ?
N'oublions pas quand même qu'on est au Nigeria, c'est-à-dire un des pays les plus riches d'Afrique. C'est quand même le premier producteur africain de pétrole et c'est celui dans lequel existe Boko Haram. Donc il faut se poser une question qui, à mon avis, n'est pas celle de la pauvreté, c'est celle de l'injustice et de la corruption. Parce que n'oubliez pas quand même qu'au Nigeria, plusieurs présidents de la République successifs ont été condamnés, poursuivis. On a essayé de récupérer l'argent qu'ils avaient placé, d'ailleurs, dans les places financières européennes et américaines, hein, parce qu'il faut être allié. Mais quand on est un dictateur, il vaut mieux mettre son argent dans des pays démocratiques, c'est plus stable. Et encore une fois, dans ce cas, le nord du Nigeria, c'est l'exemple même du pays qui a été oublié par les revenus du pétrole. Et donc, on va avoir la même situation ailleurs. Moi, j'ai tendance à penser que, si vous voulez, on devrait faire de la lutte contre la corruption une question stratégique et pas une question économique.
Daniel Mirza, la misère, le terrorisme, c'est lié ?
Il y a beaucoup à dire, mais en fait, quand on regarde un peu, quand on écoute et on lit la littérature économique, oui, la littérature, vraiment, la recherche sur ces questions-là, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas si évident. Ça n'est pas tellement la pauvreté qui va créer du terrorisme. Elle va peut-être un des facteurs mélanger à d'autres pour créer du terrorisme, mais c'est pas tellement la pauvreté. Regardez, c'est bien ce qu'on entend quand on écoute ce jeune. On nous dit qu'il vient de finir ses études, mais sans espoir d'aller sur le marché du travail, eh bien, ils se font envoyer aider pour la plupart d'entre eux. Deuxième point important, ça n'est pas tellement peut-être la pauvreté qui va créer le terrorisme, mais c'est la pauvreté plus les guerres civiles qui vont justement voir arriver tout un tas de dépôts d'armes dans ces régions-là. Et c'est tout un tas de gens qui vont entraîner justement ces gens pour faire la guérilla. Et ça, c'est une ouverture vers des actes terroristes. Donc on va tout simplement en profiter pour récupérer des armes, pour les donner à des gens qu'on va recruter, parce que c'est très facile de les recruter, ils vont se retrouver dans des milices, ainsi de suite. Et donc, ces guerres, ces conflits civils vont générer du terrorisme. Ce n'est pas la pauvreté en soi, c'est la pauvreté plus la guerre qui va peut-être, quelque part, influencer les actes terroristes.
Alors, vous me dites que ce ne sont pas les plus pauvres qui deviennent terroristes, mais est-ce qu'on peut dire que ces groupes-là utilisent la misère environnante pour étayer leur combat, pour le justifier, Pierre connaît ça ?
Oui, de toute façon, il y a une population qui va constituer le vivier dans lequel ces cadres moyens, souvent ces gens diplômés, vont effectivement développer le discours de la radicalisation et expliquer qu'effectivement, il n'y a d'autre issue que la lutte armée. Souvent, d'ailleurs, les attentats concernent les symboles du pouvoir. Hein. C'est ce qu'on avait, par exemple, en Algérie au début des années noires, où c'était, ou même quand il y a des manifestations violentes, on s'attaque au commissariat, à la mairie, etc. Donc, le sentiment de l'injustice qui prend cette forme-là, c'est la forme la plus classique. Bon, alors après, il y a tous les développements des activités criminelles, comme ce que fait Boko Haram avec les enlèvements de fillettes, etc., qui, elles, n'ont plus rien à voir avec la question du niveau social. C'est au contraire plutôt, une espèce d'explosion sexuelle dans un pays dans lequel, justement, la loi islamique réprime complètement les sexualités. Et finalement, le terrorisme autorise cette violation de la règle morale. C'est assez intéressant comme renversement de perspective. On n'est plus dans une problématique économique, on est dans une problématique psychanalytique.
Pierre Conessa, je vous rends la parole dans quelques instants, mais d'abord je voudrais qu'on écoute une déclaration du président américain Barack Obama qui a abordé cette question, la pauvreté comme facteur de terrorisme ou pas, dans un discours prononcé il y a 2 jours à Washington devant les délégations qui participaient au sommet sur le terrorisme. Barack Obama, propos recueillis par Guilhem Delteille.
Poverty alone does not cause a person to become a terrorist.
La pauvreté à elle seule n'explique pas qu'on devienne terroriste. Il y a des milliards de gens qui vivent dans une immense pauvreté et ils se concentrent sur comment améliorer leur vie et n'adhèrent jamais à des idéologies violentes. À l'inverse, il y a des terroristes qui viennent de milieux très favorisés comme Oussama Ben Laden, Mais ce qui est vrai, c'est que quand des milliards de gens, surtout des jeunes, vivent dans la pauvreté et n'ont aucun espoir d'amélioration, quand la corruption signifie des humiliations quotidiennes, cela augmente le risque d'instabilité et d'extrémisme.
Ça tue le débat, Pierre connaît ça, cette déclaration de Barack Obama?
Non, ça ne tue pas le débat, parce que vous savez, je suis historien. Moi, je me souviens quand même, il y a une vingtaine d'années, on avait un terrorisme d'extrême gauche en Europe, qui était Action Directe, la fraction armée rouge, les brigades rouges en Italie, qui n'était pas du tout un terrorisme de la pauvreté. C'était un terrorisme de l'idéologie extrémiste. Hein, donc là, on est complètement déconnecté de la question que vous posiez au début. Et qui partait d'une idéologie de l'injustice. Il considérait que les sociétés allemandes, italiennes, du fascisme, du nazisme, enfin, tout, il y avait toute une idéologie très, très hétérogène, mais qui devait conduire au fait que seule l'action violente allait permettre de la révolution d'arriver. Là, ce dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est le terrorisme de ces pays du tiers-monde dans lesquels se développe un certain type de terrorisme, qui est le terrorisme en l'occurrence salafiste, djihadiste, qui lui aussi a une ancrage idéologique dont il faut démonter les rouages. Ce n'est pas que la pauvreté. C'est plutôt le sentiment de l'injustice. Le discours qu'on trouve sur les sites salafistes, c'est véritablement de montrer qu'aujourd'hui, la seule population qui est massacrée par tout le monde sont les musulmans. Et donc, il y a une mobilisation qu'on pourrait qualifier de tiers-mondiste, entre guillemets, c'est-à-dire si on reprend l'idéologie d'il y a une vingtaine d'années, pour expliquer qu'un homme qui a envie de sacrifier sa vie et de trouver une image de héros positif peut devenir un djihadiste.
Alors, on part au nord du Mali rejoindre ces réseaux terroristes qui sont parfois un gagne-pain assuré aux sources économiques du terrorisme malien. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé David Baché à Bamako.
Cissé Alpha San est un chef d'entreprise de Tombouctou qui travaille dans la construction et dans l'agroalimentaire. Il explique que même 2 ans après la libération des régions du Nord, le contexte sécuritaire et les attaques terroristes fréquentes continuent de réduire considérablement l'activité économique de la ville et donc les possibilités de trouver du travail.
Il y a tellement de frustrations qui ont fait que certaines regagnent ces djihadistes ou bien ces rebelles. Les enfants n'ont plus espoir à avoir quelque chose de productif pour pouvoir rester à Tombouctou.
Parce que l'activité économique tourne au ralenti.
Ralenti et pour l'accès avec l'insécurité sur la route, ce qui fait que vraiment il y a un blocus sur l'activité à Tombouctou.
Selon Cissé Alpha San, les jeunes tombouxiens ont bien résisté aux sirènes djihadistes. Mais il reconnaît que les groupes terroristes et les narcotrafiquants qui sillonnent le nord du Mali depuis des années représentent une tentation à laquelle il est parfois très difficile de résister.
On ne peut pas faire fi aux facteurs économiques. C'est vrai que beaucoup ont rejoint ces gens-là parce qu'ils ont compris qu'ils sont avec des camarades de même âge qui étaient des chômeurs. Le surlendemain, ces gens-là deviennent multimillionnaires. Donc ça incite beaucoup à aller vers ces gens-là qui ont eu ces millions-là à travers le trafic de la drogue ou de ceci ou cela. Il faut créer de l'emploi. Il faut donner la chance aux opérateurs économiques d'être compétitifs par rapport à ceux du Sud. Et si ces facteurs sont là, il n'y a pas de raison à aller même ailleurs, aux plus fortes raisons, rejoindre ces rebelles.
Abdoul Kadri Idrissa Maïga est le directeur de l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou, un centre de recherche réputé pour les fameux manuscrits qu'il abrite. Pour cet universitaire, justifier l'engagement de jeunes Maliens dans les rangs djihadistes par des difficultés économiques est trop facile.
Tu dis non, il y a autre chose à faire pour gagner. Il y a autre chose à faire pour gagner. Pour moi, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Dire que je n'ai pas de travail, c'est pourquoi je gagne. Non, c'est des gens qui veulent seulement l'argent facile. C'est des gens qui sont pour la plupart traumatisés. C'est des gens qui prennent la drogue et qui ne réfléchissent pas. Des gens insensés, si on peut s'exprimer ainsi. C'est déjà insensé. Vraiment, moi, je ne vois pas qu'il y a un argument économique. Même par rapport aux jeunes qui se jettent dans la mer pour dire que je vais en Europe pour chercher du travail. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que je vais avoir plus d'argent que je vais me tuer.
Au-delà de la réponse militaire mise en œuvre contre les groupes terroristes, plusieurs partis d'opposition demandent une stratégie nationale pour dialoguer avec les jeunes Maliens qui combattent dans les rangs djihadistes afin de comprendre toutes les raisons de leur engagement et de les en détourner.
S'engager dans ces réseaux, c'est passer du chômage au statut de millionnaire, comme on l'entend dans ce reportage, Daniel Mirzin.
Alors, quand on regarde un petit peu les données, donc au-delà de ce qui se passe au Mali, on se rend compte effectivement qu'il y a un lien assez net entre l'activité terroriste, leur localisation et les rentes extraites de la terre, les rentes pétrolières, les minerais, ainsi de suite. Il y a vraiment un lien très fort, on le voit dans les données, de manière assez claire.
Alors, vous voulez dire que c'est une manière de capter
Exactement. Exactement. Donc moi, je pense que il y a effectivement il y a une manière de capter ces rentes parce que on se rend compte, il y a une grosse fraction qui se rend compte, il y a une espèce d'injustice pour revenir à ce que
disait
à l'instant. Donc effectivement, je rejoins totalement ce qu'on nous dit. Il y a une rente et cette rente n'est pas tellement redistribuée et donc il y a des gens qui sont frustrés. Et puis il y a évidemment, alors au-delà des gens qui sont frustrés, les jeunes qui sont frustrés, il y a à la tête de ces jeunes des brigands qui vont aller chercher les rentes et qui vont tout faire pour y arriver. Et ils vont embaucher des jeunes qui sont sans espoir pour aller les chercher. Donc il y a bien il y aurait bien un lien avec les rentes.
Pierre connaît ça, c'est un moyen de capter la rente, ces mouvements terroristes?
Ah ben oui, de toute façon. D'ailleurs, on n'est pas obligé de devenir terroriste. Hein, on peut capter la rente sans obligatoirement devenir terroriste. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'installe dans une situation d'illégalité, on peut effectivement soit garder l'argent, genre trafiquant de drogue de nos banlieues, soit au contraire capter de l'argent pour en faire un but politique qui peut devenir terroriste. Mais c'est vrai que les ressources sont très importantes. Et surtout, si on arrive à capter un flux qui va d'un pays pauvre vers un pays riche, là, le jackpot est obtenu. Par exemple, je calculais une fois que la somme des rançons demandées à la France pour des enlèvements de citoyens français dans la zone sahélienne était à peu près l'équivalent de la moitié du budget de défense malien. On est sur des montants à partir du moment où on arrive à politiser le sujet. Vous voyez, on ne s'adresse plus à un pauvre citoyen malien qu'on kidnappe. On s'adresse à la France pour un citoyen français dont on sait qu'elle va être obligée de défendre. Bon, ça, c'est un sujet. La drogue, même sujet, ce n'est rentable que parce qu'on a un marché ici totalement libre, de fait. Bon. L'activité de cigarettes, c'est pareil, c'est parce qu'on taxe beaucoup ici que le trafic de cigarettes devient plus intéressant à la limite et moins risqué que le trafic de drogue. Donc, on est sur des systèmes, si vous voulez, où... Moi, je voudrais faire remarquer que la mondialisation a quand même ceci de particulier, c'est qu'elle a créé du légal, elle a créé de l'illégal et elle a créé de l'illicite. C'est-à-dire des zones, si vous voulez, où on ne sait pas si c'est du droit ou si c'est pas du droit. Quand on est dans des zones sans État... Si quelqu'un fait du racket, il fait du racket à l'encontre de qui ? À l'encontre du commerçant, mais à l'encontre de quel État ? Il n'y en a plus. Bon, quand on est dans la piraterie, on s'aperçoit qu'en Somalie, on est dans des systèmes où on va expliquer aux anciens pêcheurs qu'ils ne doivent pas faire de la piraterie, sauf qu'on va piller leurs propres ressources. Donc on est dans des systèmes, si vous voulez, où la mondialisation a ouvert des possibilités dans lesquelles s'engouffre le crime international, mais aussi le terrorisme. Les ressources sont multiples.
À Washington... Lors des journées qui viennent de se dérouler, on a proposé de fournir des formations professionnalisantes et un travail aux personnes les plus sensibles à ces discours radicaux. Vous pensez que c'est quelque chose d'efficace dans cet univers-là, Daniel Mirza ?
Alors, encore une fois, je pense que... Enfin, quand on réfléchit un petit peu, je pense que c'est une condition nécessaire. Alors, est-ce que c'est une condition suffisante ? Je ne sais pas. Mais les économistes, quand ils regardent un petit peu quel est l'impact des institutions, de l'efficacité des institutions, des marchés du travail sur le fait de s'engager dans des guérillas ou dans des activités terroristes, on se rend compte en fait qu'il y a bien un effet qui montre bien que les institutions, des bonnes institutions du marché du travail, celles qui incitent les gens d'un côté à embaucher et de l'autre côté incitent les employés potentiels à aller chercher du travail, eh bien sont bonnes parce que elles créent des opportunités de travail. En créant des opportunités de travail, elles tout simplement impactent le coût d'opportunité de s'engager dans des activités terroristes. Donc oui, effectivement, il y a bien une relation, mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas du tout.
C'est Daniel Mirza, Pierre Conessa, à la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré au terrorisme. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons terrorisme et économie. Dans la première partie de cette émission, nous avons essayé de cerner les conditions économiques qui peuvent expliquer, pour partie bien sûr, l'apparition de terroristes et du terrorisme. Dans cette deuxième partie, nous évoquons l'impact économique du terrorisme. Deux invités dans ce studio, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense, et Daniel Mirza, professeur d'économie à l'université de Tours. On voit que le terrorisme prend de l'ampleur. Alors, on a commencé à évoquer cette question, mais je voudrais y revenir. Pierre Conessa, est-ce qu'il y a un lien entre terrorisme et globalisation ?
Moi, je dirais qu'il y a... D'abord, le terme de terrorisme est un terme générique sur lequel il faut revenir un petit peu. On a différentes sortes de terrorisme. Certains terrorismes se soignent par des traitements politiques, d'autres se soignent par des traitements policiers, et d'autres doivent se terminer par l'extermination. Hein. Bon. Je vais vous prendre un exemple. La guerre d'Algérie s'est terminée, les attentats de la guerre d'Algérie sont terminés le jour où l'Algérie est devenue indépendante. Bon. Et on peut supposer que le jour où les Palestiniens auront un État, le terrorisme palestinien disparaîtra. Donc il y a des formes de terrorisme qui sont des formes de résistance du faible au fort dans une zone d'occupation, contre lesquelles seule la solution politique apportera un terme. On est dans d'autres formes de terrorisme aujourd'hui, qui sont effectivement des terrorismes à fondement idéologique, dans lesquels la composante économique est une composante que je qualifierais de seconde. N'oubliez pas quand même que 15 des 19 terroristes du 11 septembre étaient des Saoudiens, des gens qui n'avaient aucun problème financier. La famille Ben Laden est une des familles les plus riches de la planète. Et donc, on n'était pas dans une mobilisation de nature économique. Qu'ensuite, on puisse trouver en Irak, dans des populations qui ont été écartées par l'invasion américaine, qui ont été touchées par les bombardements, etc., ou qui ont été touchées par le phénomène d'appauvrissement général de l'Irak, se mobilisent sur des critères comme cela. Oui, mais on voit bien que, par exemple, la ligne de partage en Irak est un partage sunnisme-chiisme. Et donc, encore une fois, on n'est pas dans une problématique économique.
Daniel Mirza, globalisation et terrorisme, c'est un peu votre...
Oui, il y a beaucoup à dire et ça va dans tous les sens. Si je prends les deux termes, la globalisation a un effet sur les terrorismes. La littérature montre bien que, évidemment, en ouvrant les canaux de transmission donc de la finance à travers le monde, il y a tout un tas de moyens plus faciles pour les terroristes pour envoyer leur argent vers le reste du monde pour échapper à la fiscalité, échapper, blanchir l'argent un peu partout. Et ça, c'est des ressources en plus. Je reviens à ces histoires de ressources qui sont toutes choses égales. Par ailleurs, on impacte sur le terrorisme. Alors après, la globalisation des marchés des biens, alors là, c'est, je pense, plus intéressant parce qu'à long terme, on observe que si les pays s'ouvrent au commerce international, eh bien, et que si l'ouverture est une ouverture à succès, c'est-à-dire que si ce sont des bonnes institutions qui leur permettent de s'ouvrir et de réussir à exporter, eh bien, ils vont réussir à augmenter la quantité de travail formel dans l'économie et, rebelote, on revient à des opportunités créées supplémentaires qui, justement, faire en sorte que les jeunes aillent vers le secteur formel et se détournent du secteur informel, notamment du terrorisme. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a l'autre point, peut-être que sur lequel
on en parlera plus tard, parce que la globalisation, c'est souvent l'abolition des frontières, des barrières douanières. En ce sens, le terrorisme qui se joue des frontières est l'enfant monstrueux de cette globalisation. Et les conséquences économiques ne connaissent pas non plus les frontières. Exemple avec ce qui se passe autour du lac Tchad, à la frontière entre le Tchad et le Nigeria. C'est un reportage de Majasra Nako, que les auditeurs des RFI ont déjà pu entendre il y a quelques semaines, près d'un mois, mais j'ai pensé qu'il était utile de le rediffuser dans cette émission, direction le lac Tchad.
Le port de Bagassoula sur la rive nord du lac Tchad était une des principales portes d'entrée au Tchad venant du Nigeria. Mais depuis que la secte islamiste Boko Haram occupe le nord-est de ce pays, la ville tourne au ralenti. El Hadj Sherif dirige le syndicat des commerçants de Bagassoula.
Bagassoula est mort, notre économie ne tient plus. 90% de nos échanges se sont arrêtés. Tenez, de simples sandales qui coûtaient 250 francs coûtent désormais 500 francs au marché.
Avant l'insurrection islamiste, tout passait par le port de Bagassoula, se souvient El Hadj Kerim Moussa, un commerçant de cette ville.
On exportait du poisson, du natron, du bétail et on revenait au Tchad avec des produits manufacturés. Mais depuis que les Boko Haram sont là, ils nous arrachent nos marchandises et nous tuent.
Mais aujourd'hui, les plus courageux qui continuent à se rendre au Nigeria effectuent un long détour par le Niger. El Hadj Kerim Moussa.
220 km.
Bagassola Nguegmi, 220 km, Nguegmi Diffa, 120 km, Diffa Zinder, 800 km, Zinder Kano, 490 km. Il faut un mois pour une distance qui ne nous prenait même pas une semaine.
Conséquence, l'économie de la région est à terre. Dimouyasso Pébé, sous-préfet de Bagassola.
Tout vient du Nigeria et tout part d'ici pour le Nigeria. Maintenant que ces opérations ont empêché et ceux d'ici de partir au Nigeria et ceux du Nigeria de venir ici, les activités économiques sont carrément au rouge. Aujourd'hui, pour manger, avoir quelque chose sur le marché, il faut attendre tout de Niamena. Et avec toutes les difficultés de transport que nous connaissons, c'est les magasins, 80% sont fermés.
En attendant l'urgence, c'est de libérer le nord-est du Nigeria pour permettre aux échanges de reprendre.
Pierre Conessa, les populations locales sont les premières victimes de ce terrorisme ?
Oui, moi ce que je constate surtout, et on l'avait constaté dans d'autres formes insurrectionnelles, comme par exemple au Angola, ou si vous voulez, la stratégie de groupes qui savent ne pas pouvoir prendre le pouvoir dans la capitale, devient une stratégie de la ressource. C'est-à-dire, on va conduire la guerre de façon à capter les flux les plus intéressants. Bon, on le voit par exemple dans la zone sahélienne, où effectivement, pour les gens d'Acmi, prendre Bamako n'a pas de signification. Par contre, se greffer sur les transits transsahariens, c'est beaucoup plus intéressant. Là, dans le cadre du Nigeria, on sent bien qu'on a effectivement un groupe qui met sa griffe, si vous voulez, sur une région particulière, et qui va se racketter, si vous voulez, toutes les activités économiques. Mais pour le moment, Boko Haram, à part faire des attentats de temps en temps dans des villes du sud, n'arrive pas à déborder de sa zone ethnique traditionnelle. Donc on est sur des stratégies qui ne sont pas des stratégies de conquête du pouvoir, qui sont des stratégies de la prédation économique.
Daniel Mirza, prédation économique ?
C'est intéressant de dire et de nous montrer en fait que ça a un impact sur les coûts de transit, les coûts de transport. Ça a un impact au-delà de ça sur le coût à faire passer les marchandises d'un lieu à un autre. Ça prend un temps phénoménal. Hein. Et donc, c'est pas un cas isolé. Dans n'importe quel pays du monde où on observe des organisations terroristes, ça a des impacts justement sur le déplacement des gens, sur le déplacement des véhicules, ainsi de suite. Tout ça, on rajoute à cela des phénomènes d'insécurité et donc des phénomènes psychologiques, parapsychologiques qui affectent le business entre les gens, donc le fait de faire des affaires, le fait de consommer, le fait d'investir, évidemment. Et ça me rappelle un travail, un papier qui a été écrit par un de mes collègues très connus sur l'impact ou le coût du terrorisme sur le PIB des Pays Basques. Et donc ces gens-là, ils ont regardé un petit peu comment le Pays Basque, donc vous allez me dire ça n'a pas grand-chose à voir, mais si ça a à voir, vous allez voir comment. Et il regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du Pays Basque espagnol et il le compare par rapport à des régions qui lui ressemblent en Espagne et il regarde pendant une quinzaine d'années, dans les années 90, comment le PIB, l'investissement dans ce pays s'est développé par rapport à d'autres régions qui lui sont ressemblantes. Qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve qu'en fait, sur 15-20 ans, il y a eu un écart de PIB par habitant de l'ordre de 10 points entre les Pays Basques, là où l'ETA agit, et le reste des régions qui sont comparables au Pays Basque en Espagne. Vous voyez bien, et il montre bien que cet impact est essentiellement dû à des histoires, notamment d'investissement, d'écart d'investissement. Donc c'est de l'insécurité, le fait de ne plus vouloir investir dans l'économie.
Pierre connaît ça, les terroristes sont en train de tuer la poule.
Je reviens sur le Pays Basque parce que c'est exactement le genre d'insurrection gauchiste qui ne se fonde pas sur une misère. Le Pays Basque est une des régions les plus riches d'Espagne.
Bien sûr.
Or, c'est justement l'activité terroriste qui l'appauvrit. L'exemple que vous citez est très caractéristique. Mmh. Et donc, on est véritablement, si on prend le terrorisme uniquement, soit comme une totalité, genre George Bush, ne revenons pas là-dessus, les erreurs stratégiques ont été immenses, mais en le prenant comme un phénomène de paupérisation, on est à côté d'un certain nombre d'aspects qui nécessitent une analyse politique première pour savoir comment on résout la question. Les sursauts, comme on a connu en France, le sursaut qu'on connaît en Espagne régulièrement comme l'ETA, on finit par amener l'ETA à renoncer à la lutte armée. Bon. Et donc, il ne faut pas se tromper, si vous voulez, sur la motivation. Dans les exemples que vous citez, il est évident que le vivier de recrutement est le vivier du paupérisme absolu. Maintenant, il reste le phénomène Arabie Saoudite.
On en parlera un autre jour. Mais la guerre contre le terrorisme coûte très cher aux pays voisins, limitrophes des zones où ce phénomène se développe. Exemple avec la Turquie, dont on connaît la frontière assez longue avec la Syrie et avec l'Irak, donc avec les territoires contrôlés depuis juin 2014 par l'Organisation de l'État islamique, état des lieux avec Jérôme Bastion à Istanbul.
Pour Sinan Ulgen, directeur du Centre de recherche économique et de politique étrangère, EDAM, il ne fait aucun doute que cette guerre coûtera cher à la Turquie.
Il y a un bilan négatif, un bilan assez lourd pour la Turquie. Premièrement, bien sûr, la Turquie, à cause de l'instabilité due à l'État islamique, se trouve coincée en quelque sorte en matière de pouvoir exporter directement ses produits, tant du point de vue de la Syrie et aussi en Irak. Le fait qu'il y a des zones qui ne sont pas sous le contrôle des États et plutôt sous le contrôle de l'État islamique est certainement un handicap pour la Turquie qui a utilisé cette partie de territoire pour envoyer ses biens vers les pays limitrophes, que ce soit surtout en Moyen-Orient, mais aussi ça a été une route utilisée pour l'Afrique du Nord.
Les exportateurs se refusent à chiffrer ce manque à gagner et le gouvernement affirme que la dépression sera passagère. Le plus gros de la facture réside en tout cas dans la prise en charge des réfugiés, explique Sinan Ulgen.
À mon avis, c'est là où il y a le plus grand défi pour la Turquie, parce que les réfugiés qui sont maintenant à peu près 1,7 million ne peuvent pas rentrer dans un futur proche, dans leur pays, que ce soit en Irak ou en Syrie, à cause du présence de l'État islamique. Ce qui fait que la Turquie doit maintenant faire face à ce problème qui, de plus en plus, devient un problème de longue durée. Maintenant qu'on est conscient que cette population ne va pas rentrer chez eux, il faut essayer de développer des solutions pour rééduquer ces populations, pour apporter des soins médicaux, pour essayer d'intégrer cette population au sein de l'économie turque, de trouver des solutions plus long terme, plus structurelles, pour essayer d'intégrer cette population et d'empêcher la radicalisation de cette population.
Le directeur des DAM évalue ainsi les répercussions sur la richesse nationale et le revenu des ménages.
Je dirais 1,5 milliard de dollars pour les réfugiés. En plus de ça, bien sûr, il y a eu des dépenses sécuritaires pour renforcer la frontière. On ne connaît pas vraiment le bilan sur ça, mais c'est quand même un fardeau sur le budget. Donc on arrive probablement à un montant annuel de 2,5 milliards de dollars. Et ça, quand on regarde le PNB de la Turquie, qui maintenant est à peu près 750 à 800 milliards de dollars, ceci remonte à 0,3% du PNB turc.
C'était un entretien mené par Jérôme Bastion, le correspondant de RFI à Istanbul. Nous sommes dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, et nous parlons de l'impact économique du terrorisme avec deux invités, Daniel Mirza, professeur d'économie à l'Université de Tours, et Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense. Pierre Conessa, je vous voyais prendre des notes pendant cet entretien.
C'est-à-dire que cet entretien me suscite une autre question. Vous savez, la Turquie a cette malheureuse originalité d'avoir été en première ligne dans l'embargo contre l'Iran à partir de la guerre en Irak, d'avoir été en première ligne de l'embargo contre l'Irak après l'invasion du Koweït, d'avoir été en première ligne quand l'embargo décrété sur la Syrie, et puis évidemment avec l'embargo à l'encontre de l'État islamique. C'est un impact économique dont on mesure mal, c'est-à-dire quand se décide à New York un embargo international sur un pays, en général ça se décide dans des pays qui ne sont pas touchés directement par l'embargo. Bon, on le voit nous quand la filière porcine est sanctionnée par la Russie, mais on ne se pose jamais la question des pays de la première ligne. Et ces pays de la première ligne sont ceux qui évidemment sont obligés de répliquer à l'embargo par du trafic. Parce que là, ce que nous disent pas nos interlocuteurs, c'est que bien évidemment, il y a des opérateurs qui passent de l'autre côté. L'achat de pétrole de l'État islamique se fait par des opérateurs turcs, etc., etc. Donc, on est sur des choses qui sont dans lesquelles l'impact économique est masqué par une espèce de discours politique qui n'a aucune emprise sur la réalité. Et bien évidemment, à partir du moment où il y a interdiction, il y a des marges beaucoup plus importantes. Rappelez-vous l'affaire pétrole contre nourriture, rappelez-vous des choses comme ça. À partir du moment où la règle internationale vient brider les échanges normaux, soit parce qu'elle est victime d'un embargo, soit parce qu'il y a des prédations terroristes, à ce moment-là, on a effectivement des acteurs qui peuvent gagner beaucoup d'argent ou en perdre beaucoup.
Daniel Mirza, est-ce que ce phénomène terroriste peut contribuer à réorienter les économies de ces pays, à les rendre plus dépendantes de l'aide militaire ou économique extérieure ?
En fait, quand on revient justement à l'exemple de la Turquie, c'est très intéressant. C'est un pays voisin, en première ligne, comme vous le dites. Effectivement, c'est un pays qui va être fortement affecté par ce qui se passe à côté. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas tellement, c'est qu'il va être aussi affecté, pas seulement en termes de ses exportations à côté, mais il va ces exportations vont être affectées vers les pays occidentaux. Pourquoi ? Parce que les pays occidentaux, quand ils dressent des mesures sécuritaires, ils ne dressent pas des mesures sécuritaires contre un pays, mais sur également des pays voisins à ce pays-là. Et ça, c'est un point crucial qu'on est en train d'étudier avec mes co-auteurs, Thierry Verdier et puis José de Souza. On montre bien que non seulement eh bien, les pays qui sont au cœur des attentats terroristes sont affectés, leur commerce est affecté à l'extérieur, mais les pays qui sont autour de ces pays-là sont affectés. On dresse des mesures sécuritaires, on réduit les visas d'affaires à ces gens-là qui sont juste, qui viennent de la région. Mais en plus, ce qu'on montre également, c'est que les Occidentaux se détournent de ces pays-là et vont vers des pays qui sont plus sûrs. Et donc, du coup, tout se passe comme si les attentats terroristes vont faire perdre des pays qui sont au cœur de ces attentats et autour, et vont faire quelque part gagner relativement des pays qui sont éloignés de ces attentats. Donc il y a une redistribution, une petite redistribution de commerce, hein, c'est pas énorme, hein, mais une espèce de taxe vers ces pays-là et une espèce de subvention vers d'autres pays qui sont plus sûrs.
Alors justement, ma question, est-ce que cela fait dépendre de l'aide militaire, de l'aide économique extérieure pour compenser, contrebalancer ces réductions de flux commerciaux ?
Alors, là aussi, l'aide militaire ou les dépenses extérieures, où il y a eu des choses qui ont été racontées là-dessus, la relation n'est pas très claire. C'est pas parce qu'on les aide que finalement ils vont s'en sortir. C'est pas parce que on leur envoie de l'argent que c'est bon pour le terrorisme. En fait, il n'y a pas tellement d'effet, quoi. C'est vraiment trop controversé, c'est pas un effet très robuste.
Alors il y a un secteur par contre qui est directement affecté par la montée du terrorisme, c'est le tourisme. Écoutez ce qu'en dit Mossadegh Bali, le patron de la chaîne hôtelière Pan-African Azalaï, que j'ai rencontré lors d'un de ses récents passages à Paris.
Bah oui, le terrorisme affecte de façon globale nos économies puisque ça projette une mauvaise image de nos pays. Quand nous avons eu les problèmes que nous avons toujours, d'ailleurs dans le nord du Mali, forcément, ça a dû affecter la fréquentation de nos pays. On voit un pays comme le Nigeria, par exemple, qui souffre du terrorisme de Boko Haram. Donc, comme déjà les médias internationaux ne véhiculent que ce qui ne marche pas dans nos pays, donc forcément, quand il y a des actes terroristes dans nos pays, ça passe en boucle sur les médias internationaux. Et ça affecte la fréquentation de nos pays.
Et votre groupe en particulier, est-ce qu'il a été affecté durement ?
Nous avons été affectés dans les années, je dirais, 2010-2011, quand il y a eu les problèmes qui ont commencé dans le nord du Mali. Des pays comme le Mali, le Burkina en ont souffert. Donc les gens, parfois, avaient même peur de venir à Bamako et à Ouagadougou. Parce qu'ils se disaient, bon, il y a la rébellion au Mali, donc c'est tout le Mali, alors que c'est vraiment une toute petite partie du Mali, à savoir le nord-est du Mali qui est affecté par ce terrorisme. Mais ceux qui sont loin disent le Mali, ils voient que le Mali, et puis des gens annulent des voyages parce qu'ils se disent que le Mali est en zone rouge, ce qui n'est pas du tout le cas.
Mais concrètement, vous estimez à quel pourcentage du chiffre d'affaires de votre groupe hôtelier ces dégâts ?
Il n'y a peut-être pas un chiffre précis. Nous avons fait une évaluation. Je dirais entre 15 et 20% du chiffre d'affaires peut être affecté par ce genre de mauvaises nouvelles qui peuvent venir de nos différents pays, puisque les personnes qui voyagent et qui sont en général des hommes d'affaires regardent assez souvent ces médias internationaux. Et lorsqu'ils voient ces mauvaises nouvelles, peuvent décider de reporter des voyages en se disant « bon, peut-être la situation n'est pas stable dans nos pays ». Donc forcément, ça a un impact sur nos chiffres d'affaires. On l'estime environ 15 à 20% du chiffre d'affaires qui peut être directement affecté par des actes terroristes qui se passent ça et là dans nos sous-régions.
Daniel Mirza, 15 à 20% de chiffre d'affaires en moins pour ce groupe hôtelier, ça vous semble une proportion qu'on peut généraliser à toute l'économie ?
Alors, ça dépend de la permanence des actes terroristes. En fait, on observe que les pays où les actes terroristes sont relativement permanents, des pays pas sûrs, où vraiment il y a un terreau terroriste qui s'installe et qui reste, eh bien, on observe effectivement un impact sur le tourisme très clair. C'est pas étonnant, ces chiffres qu'ils donnent sont dans l'ordre de ce qu'on peut avoir en tête. Alors, par contre, pour des pays où il y a eu quelques actes terroristes passagers, de manière sporadique, tiens, un attentat quelque part, ça a un impact, mais l'impact est vraiment temporaire. Et puis on observe bien que 6 mois après, 1 an après, ça repart. Donc vraiment, les actes terroristes n'ont un impact que si vraiment le conflit perdure, le conflit lié au terrorisme perdure dans la région. Quand il ne perdure pas, généralement, ça repart très vite. Et voilà.
Pierre connaît ça.
On a quand même constaté dans le passé qu'il y avait de véritables stratégies antitouristiques, c'est-à-dire que dans des pays dont l'économie, comme par exemple l'Égypte ou la Tunisie, dépendait beaucoup de l'activité touristique, par exemple à l'époque de Moubarak, les Gamaat Islamia avaient une stratégie tout à fait antitouristique. Rappelez-vous l'attentat dans la Vallée des Rois contre le groupe de Japonais qui avait été purement et simplement assassiné. Hein. Rappelez-vous l'attentat à Tabac dans le Sinaï, etc., etc. Bon. Simplement, on voit bien que sur des pays dont la dépendance à l'égard du tourisme est très forte, ce sont des véritables stratégies terroristes. C'est pas du tout. Rappelez-vous Bali, par exemple. Bali, c'est pas un hasard si ça s'est fait à Bali, en Indonésie et pas ailleurs. C'était à la fois vider des Australiens et puis viser un pays, une île qui n'était pas musulmane. Bon, cela dit, en termes de tourisme, si vous voulez, je pense que
ce que vous dites, c'est que jusqu'à présent, au cours de notre conversation, on a fait que, comme si l'impact économique n'était qu'une retombée des actions terroristes. Alors, ce que vous nous dites, c'est que atteindre l'économie, ça peut faire partie de la stratégie terroriste.
Ah oui, absolument, bien sûr, oui. D'abord, j'ai expliqué tout à l'heure que quand c'est des groupes qui n'avaient pas l'intention de prendre la capitale, leur stratégie était essentiellement la stratégie des ressources. Par exemple, en Angola, c'était les zones diamantifères. Les combats se passaient pour maîtriser les zones diamantifères. Quand les Khmer Rouges avaient été battus par les Vietnamiens, leur stratégie était de se positionner sur les zones de pierres précieuses et sur les zones de grumes, parce qu'il y avait un trafic avec la Thaïlande, etc. Donc, il y a des stratégies économiques, bien entendu, qui sont à la fois pour permettre aux groupes de survivre et en même temps pour affaiblir l'État dans lequel ils sont installés. Il y a une stratégie antiterroriste par les groupes, oui, bien sûr.
Daniel Mirza.
Oui,
antitouristique, excusez-moi, c'était pas antiterroriste.
Oui, je voudrais rebondir là-dessus. J'ai un de mes collègues qui fait de la recherche sur ces questions, qui à un moment dans son papier qui montre l'impact sur le coût du terrorisme, et à la fin de son papier qui écrit, en gros, on espère que les organisations terroristes ne nous lisent pas trop, parce que leur stratégie est effectivement anti-économique, et quand on voit qu'il y a un impact sur l'économie et a un effet sur son coût, les organisations terroristes ne devraient pas trop nous lire, parce qu'ils voudraient, ça les inciterait peut-être à aller encore plus loin et puis à taper encore plus sur les pays là où ils sont et puis les pays où ils sont. Voilà.
Pierre connaît ça quand par exemple le site pétrolier d'Inamena s'est attaqué ou les tours du World Trade Center à New York en 2001, c'est une guerre économique?
Non, le World Trade Center c'était une guerre symbolique. C'est-à-dire qu'on voit bien que, si vous voulez, Al-Qaïda n'a pas attaqué Saint-Pierre de Rome. C'était pas une guerre religieuse, c'était une guerre du symbole destinée à frapper quelque chose qui était un des symboles même de la mondialisation. Je ne mettrai pas ça là-dedans. L'attaque d'Aïn Ibn Amenas, oui, effectivement, est une stratégie économique et politique à l'encontre de l'Algérie, puisque l'Algérie sortait de 10 ans d'années noires, dans lesquelles elle avait résorbé quasiment la quasi-totalité du phénomène terroriste djihadiste, salafiste, et qui, évidemment, se retrouve tout à coup contestée sur un de ses viviers, alors qu'il n'y avait pas eu de stratégie pétrolière pendant les années noires. C'est ça qui était très troublant, puisque les sites pétroliers étaient suffisamment loin ou suffisamment protégés, je ne sais pas, toujours est-il qu'il n'y avait jamais eu d'attaque significative sur les sites de production. Là, c'était une manière de dire aux Algériens, vous n'avez pas gagné la guerre.
Daniel Mirza.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, le lien n'est pas. Enfin, quand on regarde un petit peu ce que font les terroristes, ce qu'ils veulent, c'est être les plus visibles possibles. Comment être le plus visible possible? On tape sur les World Trade Center, on tape sur Bali, on tape dans les grandes villes généralement.
Mais est-ce que ça réduit les flux d'investissement étrangers,
alors,
ce genre d'activité?
Oui. On observe que ça a un impact sur les flux d'investissement, tout comme ça a un impact sur l'investissement intérieur, ça a un impact sur les flux d'investissement qui proviennent de l'étranger, a fortiori, oui, parce que ça crée de l'incertitude, on va pas aller placer notre argent là où on est incertain de retrouver ou qu'il soit rentable, tout simplement. Donc oui, ça a un impact clair. Pour finir là-dessus, que ce soit sur le tourisme, sur les investissements, sur le commerce, on trouve systématiquement ce type d'impact du terrorisme.
Pierre connaît ça. Est-ce que la France pourrait être assimilée à ces pays-là, puisque il y a des attentats en France? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la croissance, sur le résultat économique?
Non, ça ne peut pas avoir d'impact sur la croissance. D'abord parce que n'oubliez pas que en matière de technologie de la sécurité, il y a un véritable marché. quand même un point important. C'est-à-dire que le contre-effet du terrorisme, c'est quand même qu'on a développé à peu près partout des technologies de sécurité qui vont être d'aller depuis les caméras de surveillance jusqu'aux drones, etc., etc. Donc il y a cet impact-là qu'il faudrait mesurer, mais qui n'est qu'évidemment...
C'est-à-dire qu'on peut vendre cette technologie.
Bien
ça
entendu.
Ça fait du chiffre d'affaires.
Bien entendu. Là, le mur qui se construit en Arabie Saoudite pour se protéger contre l'État islamique, qui est quand même la création de l'Arabie Saoudite, si on y réfléchit bien, est un mur qui va être super technologique parce qu'il va être équipé par des milliers de capteurs, etc. Et donc, ce sont des marchés d'énormes enjeux économiques et industriels. Qatar, pareil, s'est fait un mur de protection, etc., etc.
La vente des Rafales à l'Égypte.
Ben, la vente des Rafales, c'est plus indirect, parce qu'en matière de lutte antiterroriste, le Rafale, c'est pas ce qu'on fait de mieux, quand même, hein. Donc, j'ai même tendance à penser qu'une bombe de 250 kilos sur une maison n'est pas le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme. C'est plutôt le moyen d'en susciter. Donc, je pense pas que le Rafale entre dans cette stratégie.
Daniel Mirza?
Ce qui est intéressant, c'est que il se trouve que les pays développés mettent en place beaucoup de mesures défensives et puis certaines mesures proactives. Évidemment, ça les protège, mais en fait, ça déplace le problème ailleurs. On voit bien que la plupart des attentats aujourd'hui ne se font pas chez nous, ils se font ailleurs, ils se font à côté de là où se trouvent les organisations terroristes. Pourquoi ? Ben parce que à côté, en face, on ne met pas les mesures défensives,
les moyens financiers.
Ou alors, quand on les a, on ne les utilise pas efficacement. Et ça, c'est un point très important.
On va s'arrêter là. Cette émission est terminée. C'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré au coût du terrorisme. Merci à vous, Pierre Conessa, Daniel Mirza, d'y avoir participé. Guillaume Munier réalisait cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.